CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Keylus par Johan.
Bonjour, bonjour à tous, merci d'être fidèles au MAC du pays Midi-Quercy. Dans ce numéro, Denis Ferté parle du plan climat-énergie territorial et en particulier de la biomasse, de la méthanisation. Vous saurez tout sur la méthanisation dans deux minutes. Et ensuite, c'est Jean-Marc Labartac, président de l'association Pierre Nègre qui gère l'ancien cinéma Le Florida à cette fois, qui propose du 4 au 7 mai des rendez-vous des mémoires autour du camp de Jude. Le territoire à énergie positive pour une croissance verte, c'est un engagement du pôle d'équilibre territorial et rural du pays Midi-Quercy. Et il y a tout un processus sur la recherche d'énergie renouvelable. On met en place des filières bois pour retrouver de l'énergie renouvelable dans les chaudières pour faire du chauffage. Et puis, comme on est un territoire agricole et qui par définition avec l'élevage produit des choses qu'en général on utilisait juste pour enrichir la terre, aujourd'hui on s'aperçoit que ça dégage du gaz, ce qu'on appelle les déchets des animaux en zone agricole. Et s'il y a quelqu'un qui connaît le sujet, c'est notre invité d'aujourd'hui, c'est Denis Ferté. Je ne sais plus comment vous présenter, ancien conseiller régional, vice-président à l'agriculture, mine de rien, élu longtemps dans la commune de Saint-Antonin et s'occupant de l'agriculture. Vous êtes à la présidence d'une CUMA, où vous y avez été. Enfin, vous connaissez le sujet, et le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est comment extraire du gaz des déchets ultimes pour en faire de l'énergie. Ça s'appelle la méthanisation et ça nécessite qu'on y réfléchisse sérieusement à l'infrastructure.
Tout à fait. Alors donc, le TEPCV, vous venez d'un peu d'en parler. TEPCV, il y a deux grands volets, très très rapidement. D'une part, économie d'énergie, tout ce qui consiste à économiser les énergies chez soi, dans les bâtiments publics, dans les entreprises. Et après, production d'énergie renouvelable sous toutes les formes. Vous en avez parlé tout de suite. Une de ces énergies renouvelables potentielles, c'est la méthanisation, la production de biogaz à partir des déchets de l'agriculture, entre autres, mais aussi d'autres sous-produits de l'industrie agroalimentaire et des déchets de, les déchets verts et les déchets de tonte, par exemple, etc. Voilà pour le cadre général. La méthanisation consiste à partir de ces mêmes déchets de les mettre sous atmosphère contrôlée, c'est-à-dire sous bâche, et de faire en sorte que la fermentation qui va se produire va dégager du biogaz, donc du méthane, qu'on va utiliser, on en parlera plus tard, et ce qui reste, le digesta. Le digesta, lui, est réutilisé effectivement pour enrichir les surfaces agricoles ou autres, et qui a pratiquement la même valeur fertilisante que le produit de départ. Ensuite, que fait-on de cette énergie? Eh bien, disons que nous avons deux possibilités principales. La première, de comprimer, purifier ce gaz de méthane, le purifier, le comprimer et le réinjecter dans les canalisations de gaz qui existent.
Ça, c'est la fin, effectivement, ça va vers un consommateur.
Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est à partir de ce gaz, de faire tourner un moteur qui va entraîner lui-même une turbine électrique, donc produire de l'électricité. Et cette électricité, elle va aller dans le réseau électrique.
Au lieu de transporter le gaz par les tuyaux, on transporte le flux par les fils. Bon alors, entre le moment où on ramasse ce que les animaux ont laissé, on y met du compost vert, si j'ai bien compris, des choses comme ça, on bâche, ça fermente et puis ça devient du gaz. Entre les deux, il y a peut-être un outil dans lequel il faut investir, et comme tous les investissements, on se dit quel est le volume de sortie, son prix de vente qui justifie l'investissement et combien faut-il de volume d'entrée.
Ce qu'on met dedans. Vous l'avez dit, c'est les déchets surtout agricoles, le fumier, le lisier, et aussi tous les déchets des industries agroalimentaires, c'est-à-dire les déchets d'abattoir, les déchets des industries de semences, des industries qui mettent tous les produits agricoles en boîte, etc. Il y a toujours des déchets, et ces déchets...
Sachant qu'en plus, ces déchets, aujourd'hui, ne sont pas valorisés forcément.
Non. Alors, par exemple, à Moissac, vous avez l'entreprise qui commercialise les melons et qui a monté une unité de méthanisation avec tous les melons qui ne sont pas commercialisables et tous les déchets de melons. Et ça fait une très belle unité de méthanisation qui fonctionne déjà depuis 2 ans. Continue de s'agrandir.
Alors, on imagine la collecte. Pas simple.
On peut faire une unité de méthanisation au stade de l'exploitation agricole. On peut la faire au stade de 3 ou 4 exploitations agricoles. On a donc une possibilité d'entreprise collective plus ou moins élaborée. Le transport, si c'est sur la ferme, il n'y a pas de transport. Si c'est une unité de plus importante, couramment, on envisage d'aller chercher les déchets dans un rayon de 15 à 20 km maximum.
D'accord. Hein?
Donc ça fait quand même déjà...
Ce que faisaient déjà les agriculteurs, entre la stabulation et la prairie où ils allaient faire l'épandage, finalement, quelquefois, avec le non-remembrement, on faisait des kilomètres déjà.
Oui, mais enfin, là on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin, mais enfin, c'est... Mm-hmm. Bon, c'est pas l'objectif de faire des kilomètres. Hein. Mais disons que là, ça reste rentable économiquement et énergétiquement d'aller collecter donc les déchets dans un rayon jusqu'à 15 à 20 kilomètres. Bon, une fois qu'on les a amenés sur le site, effectivement, là, globalement, on va parler de 2 types d'unités de méthanisation. Les unités qui fonctionnent en liquide, en phase liquide,
en
et
bassin.
D'autres en phase plus solide, c'est-à-dire plus fumier, quoi. Les plus couramment rencontrées, ce sont la phase liquide. Ces unités en cercle, en cylindre, avec par-dessus une bâche. Il y a donc dedans un agitateur.
En somme, le station d'épuration,
on chauffe un petit peu. Il faut chauffer un petit peu le liquide à l'intérieur autour de 40 degrés. Tous les jours, on en remet un petit peu. Et tous les jours, il en ressort un peu de manière à ce qu'il y ait un fonctionnement continu de cette unité. Qui produit donc du biogaz qui va s'échapper par le haut et ensuite être évacué vers un compresseur pour utiliser ce gaz dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. L'autre système, l'autre concept, c'est le concept en phase solide. À ce moment-là, on va utiliser des compartiments, 3, 4, dans lesquels le cycle, c'est on rentre le fumier et les différents ingrédients, on remplit, on ferme ensuite par derrière avec des portes hermétique, des portes étanches, et on va imprégner du liquide dans ce compartiment, chauffer légèrement, et il va se développer une phase de production de méthane qui va durer, couramment, on laisse à peu près 1 mois le produit dans le compartiment avant de le sortir. Donc, avez 4 compartiments chaque semaine vous en remplissez un, vous avez une production régulière.
Et ce qui est intéressant dans le processus, c'est que ce qui reste peut encore fertiliser les terres.
Oui.
C'est-à-dire, on a extirpé du déchet ce qui peut produire de l'énergie, mais on l'a pas appauvri.
Voilà. Vous avez très bien expliqué la chose. Effectivement, nous avons la même valeur fertilisante dans le fumier qui arrive à l'unité que dans le digestat qui repart et qu'on va remettre dans les champs.
En fait,
la différence, c'est que ce méthane que nous avons récupéré, qui au lieu de s'évaporer dans l'atmosphère, est utilisé pour faire de l'énergie.
En fait, on l'a pas dit ça, c'est que c'est un double compliment, c'est qu'en plus on a évité l'évacuation de gaz à effet de serre si on avait laissé des composés en plein air comme ça. Mais alors pourquoi on ne faisait pas depuis longtemps ça, récupérer le méthane? Il y avait que des précurseurs qui faisaient ça.
Ça se fait depuis longtemps, hein, depuis très longtemps, mais de manière, comment dire, plus restreinte et puis plus artisanale, on va dire.
Oui. Bon, le seul problème, c'est que ça pue.
Pas du tout. Non. Le fumier a une odeur avant.
Et en fait, c'est le méthane qui sent.
Une fois méthanisé, il n'y a plus d'odeur. Non. Dans une unité de méthanisation, il peut y avoir effectivement des odeurs autour, etc., si c'est mal fait.
Ah, l'odeur est un indice de malfaçon.
Oui, non, mais c'est-à-dire qu'on peut très bien se débrouiller pour se mettre tous les équipements nécessaires pour supprimer les odeurs. Hein,
C'est faisable.
C'est très très faisable. Oui, c'est très 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 faisable. Il n'y a aucun problème là-dessus, de manière à ce qui. Parce que alors, effectivement, dans ce type de projet, il est nécessaire d'associer l'ensemble de la population au projet lui-même, parce que on comprend qu'il y a des craintes, des peurs, hein, autour de ce type de projet. Bon, et c'est pour ça qu'il est nécessaire que dans la structure juridique dont monte ce projet, il faut pouvoir inclure dans la structure juridique et dans la structure financière toutes les couches de la société qui souhaitent s'y impliquer. Et n'importe qui peut très bien s'impliquer dans ce projet, à la fois physiquement, mais à la fois aussi financièrement, parce que on peut pas dire qu'il y a une grande rentabilité, mais il y a une petite rentabilité qu'il ne faut pas négliger dans l'époque où nous vivons. Il y aurait potentiellement, on pourrait dire, 3 ou 4 zones d'implantation.
Où ça serait pertinent.
Où ce serait pertinent. Une sur Caussade, où le projet est relativement avancé. Sur Caussade, je veux dire, aux alentours, hein. Une plus sur Molière, et puis du côté de Caylus, Saint-Antonin, il y a là aussi des possibilités.
Denis Ferté, je vous remercie.
Avec plaisir.
Il n'y a rien à faire, pas de moment, regarder le monde à l'envers, croire en dessous, en l'éphémère, décider d'aller de l'avant, car il y a dans l'air, par moment, ce léger souffle séduisant. Peut-on rester débutant, apprivoiser ses nerfs? Il y a l'élan que l'on allume, le don qui se consume. Il y a dans mes yeux qui brille le vaste océan de tes pupilles. Car il y a dans l'air par moment ce léger souffle séduisant. Peut-on rester débutant, apprivoiser ses nerfs? C'est évident, l'intérieur et l'extravagant, venant de la mer, du vent, d'un lieu reposant, de l'air. Mais dans cette terre, par moment, ce léger souffle séduisant, peut-on rester débutant, apprivoiser?
Merci, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et samedi à 18h.
Parlons culture et mémoire maintenant avec le rendez-vous des mémoires, histoire parlée et chantée de populations déplacées. Ça se passe à Sept-Fonds du 4 au 7 mai 2016. et c'est en particulier au théâtre Le Florida. L'association Pierre Nègre présente le Camp de Jude, ce rendez-vous des mémoires. Son président est là, c'est Jean-Marc Labarta. Bonjour.
Oui, bonjour. D'abord, il faut parler de la salle elle-même, puisque c'est une salle qu'on fait revivre, puisque c'est une salle qui date à peu près des années 1920-1930. C'est devenu un cinéma qui a fonctionné pendant une trentaine d'années à peu près. Et comme beaucoup de petites salles de spectacle ou de cinéma, dans les années 80, ça a fermé. Ça a été un peu, disons, fermé par la force des choses. La télé étant là, les personnes sortent à moins. Le cinéma a périclité. Donc cette salle était restée jusqu'à il y a 3 ans, pendant 20 à 30 ans à peu près, pratiquement inoccupée.
Voilà, alors maintenant que la salle était aménagée avec des entrées, des sorties, des loges, des machins, tout ce qu'il faut, elle est confortable, et du coup vous y avez une programmation en tant qu'association.
Oui, ben c'est justement une bonne surprise, c'est que bon, on a démarré avec quelques idées, mais très vite on s'est rendu compte que, comme tous les lieux de spectacle, il y a beaucoup de demandes, mais des vraies salles, elles sont rares dans notre région, et c'est une bonne raison pour exploiter la nôtre.
Alors là, vous l'exploitez, mais alors pendant plusieurs soirs, du 4 au 7 mai, avec un beau programme.
Oui, en fait, c'est Rendez-vous des mémoires. Ça a démarré un peu, j'allais dire par hasard, non, parce qu'en fait, on sait, je suppose que cette forme est un lieu dans lequel se trouvait dans les années 39, à partir de février 39, un camp de réfugiés espagnols. Ce camp a été ouvert donc en février 39 pour accueillir les Espagnols qui étaient chassés d'Espagne. Je fais bref dans l'histoire, on va pas rentrer dans le détail de l'histoire de la guerre d'Espagne, mais 500 000 républicains espagnols à peu près ont franchi la frontière, ou les frontières plutôt, pour se réfugier en France. Et cette FOM a été choisie dans le département du Tarn-et-Garonne pour accueillir, alors le mot accueillir est peut-être un peu galvaudé actuellement, ça c'est un autre débat également, mais disons qu'on a eu un camp à cette FOM qui a accueilli au plus fort de la concentration environ 16 000 espagnols, militaires et civils. Et par la suite, dans les mois suivants, il y a eu des entrées, des sorties, donc on peut peut-être chiffrer entre 20 et 25 000 le nombre de réfugiés qui sont passés par ce camp durant l'année 1939. Voilà. Et c'est ensuite, ça a été une longue histoire jusqu'à la fermeture du camp en 1945, c'est-à-dire au moment de la fin de la guerre, de 39-45. Et tout au long de ces années, le camp a accueilli des réfugiés polonais. Il a servi aussi, il faut pas l'oublier, à la déportation des Juifs qui avaient été raflés dans le département du Tarn-et-Garonne et du Lot, donc qui avaient été concentrés à cette forme pour être envoyés à Auschwitz via Drancy, en région parisienne. Et on sait également que beaucoup de personnes sont venues plus ou moins anonymement, et soit en groupe, soit individuellement, de beaucoup de nationalités. On parle entre autres du père de Charles Aznavour, Aznavourian, qui serait passé par le camp. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est 5 ans d'histoire de ce camp riche et qui mérite qu'on s'y attarde.
Alors ça démarre le mercredi 4 mai par une conférence lecture de Delia Esquer et Gérard Bayray, je prononce bien ?
Oui, alors Delia Esquer, c'est une ariégeoise. En fait, d'origine espagnole, comme son nom l'indique, je dirais même catalane. C'est une personne son père qui a été interné pas très longtemps au camp de cette forme, mais qui est en tout cas réfugié espagnol, et qui a eu le réflexe d'écrire ses mémoires avant de décéder, et donc sa fille Delia a écrit un livre, et elle fait régulièrement, là où elle est demandée, des lectures de ce livre en duo avec un ami, voilà. Et donc ça va faire l'objet, ça, d'une lecture du livre, ou de passage du livre, et forcément ça amène des questions, donc ça se transformera en conférence débat certainement par la suite.
Alors ça, c'est mercredi 4 mai à 21h, le jeudi 5 mai, un récital.
Oui, un récital de la locale de l'étape, Servane Solana, qui est une chanteuse guitariste d'origine espagnole, qui habite donc dans notre région, à Kerriech, pour tout vous dire. Je ne dirai pas où exactement, quand même.
Tu sais.
Voilà. Donc, elle va nous faire le privilège de venir faire un récital qu'elle intitule Canciones. Ce sont des chansons espagnoles, populaires espagnoles.
Vendredi 6 mai à 21h, du théâtre.
Oui, c'est une troupe qui est une compagnie qui s'appelle la compagnie Création Éphémère, qui est de Millau. C'est une compagnie en fait professionnelle dont l'interprète principal est unique d'ailleurs, puisque à lui tout seul il tient la scène pendant toute la durée du spectacle, Kevin Pérez, qui est un acteur professionnel et d'origine lui aussi espagnole, et leur pièce s'appelle Federicos. C'est une pièce donc sur le thème général de la guerre d'Espagne. C'est un spectacle je pense que de très haute qualité, qui est conventionné par la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Je dirais même plutôt l'inverse, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Et vous respectez l'ordre. Et donc, c'est une création donc qu'on aura dans notre salle le vendredi 6 mai à 21h.
Je le dis parce que les vieux, ça leur évoque quelque chose. Federicos, on pense à García Lorca quand on est branché à Espagne.
Voilà, exactement.
Il y a des jeunes générations qui écoutent aussi. Samedi 7 mai à 21h, un récital, lecture.
Oui, c'est un récital lecture en espagnol de Sonia Aleros Molina, qui est une chanteuse mezzo-soprano qui habite Montauban, qui a un gros répertoire et un passé assez important dans le milieu musical, puisqu'elle a été pendant un moment dans les chœurs du Théâtre du Capitole à Toulouse. Voilà. Et actuellement, donc, elle a plusieurs spectacles, dont ce récital lecture en espagnol, accompagné au piano par Laetitia Jambert, et par deux récitants, Pierre Punière, qui est récitant en espagnol, et Jacob Combalbert, qui est récitant en français. Donc c'est un récital lecture qui s'appelle Lorca y Defalia. Voilà, ce sont des reprises de poèmes de ces deux poètes espagnols.
Vous n'avez pas pu noter, si ce n'est que le rendez-vous des mémoires sur le camp de Jude à Sept-Fonds, c'est du 4 au 7 mai 2016. Vous voulez vous souvenir, vous pouvez écouter le podcast de l'émission sur cfmradio.fr. Vous pouvez retrouver tout ça sur www.theatrelefloride.fr, bien entendu. Et sinon, si vous voulez de la réponse personnalisée, vous appelez le 06 08 88 26. On ne l'a pas dit, toutes ces soirées sont en participation libre. Jean-Marc Labarta, je vous remercie.
Merci à vous et à bientôt.
Le Mag du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr, les émissions Le Mag du Pays Midi Quercy. À la semaine prochaine.